C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzy. Auteur Hans Jacob Grimmelshausen, écrivain, né dans la Hesse vers 1620, mort en 1676, a exercé plusieurs métiers administratifs subalternes dans l'armée avant de se retirer comme aubergiste, hétérosexuel, protestant, converti au catholicisme. Œuvre Les aventures de Simplicius Simplicissimus, Der Abenteuerliche Simplicius Simplicissimus, 1668. Personnage Simplicius. Adaptation, l'opéra Simplicius Simplicissimus par Carl Amadeus Hartmann, créé en 1956. Une adaptation télévisée pour la ZDF en 1975 et en France, une série dessinée pour le journal L'Humanité par Gilbert Bloch et Raymond Lavie. À leur début, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, les romans étaient très souvent précédés d'un avertissement qui avait l'air de roulement de tambour d'une tournée de cirque arrivant dans un village. Un des plus célèbres romans de langue allemande de ce temps, Les aventures de Simplicius Simplicissimus, avait l'avertissement suivant. Les aventures de Simplicius Simplicissimus, comprenant le récit détaillé, véridique et très mémorable de la vie d'un vagabond étonnant et étrange, simple d'esprit. Comment, où et dans quelles circonstances il fit son entrée dans le monde, comment il s'y conduisit, ce qu'il y vit de remarquable, ce qu'il y a appris et fait, les dangers qu'il a courus un peu partout au péril de son corps et de sa vie, pourquoi finalement il a renoncé volontairement au monde. Lecture agréable, divertissante et très gaie, très utile à méditer. Ce livre était même mieux que cela, et c'est ainsi qu'est né un des personnages les plus célèbres de la fiction mondiale, ce Simplicius, personnage principal et narrateur du roman. Son auteur a suivi sa création dans la célébrité sous son nom d'état civil de Hans Jacob Grimmelshausen, alors qu'il avait signé son livre d'un pseudonyme, German Schleifheim von Stulsfort. Simplicius est un personnage de pur qui perd sa pureté dans une période affreuse pour l'Allemagne et qui a même frappé toute l'Europe par ses atrocités, la guerre de 30 ans. Ceux qui admirent les romans d'héroïsation, comme Le déclin du courage et autres fictions hemingwayistes qui ne sont au fond que des résurgences des romans de chevalerie, pourraient lire ce Simplicius qui montre qu'un soldat peut aussi, parfois, être une brute. C'est un roman avec des idées, car notre Simplicius a des lectures, c'est un roman... Les mots comiques et allemands ne sont pas ceux qu'on pense le plus spontanément à rapprocher. Le Simplicius Simplicissimus montre qu'on a bien tort. Il contient des scènes d'une grande drôlerie, sinon du meilleur goût, et je recommande celle où Simplicius raconte des souvenirs de paix. C'est enfin un personnage qui a engendré des personnages, plus grande preuve de sa réussite, et par exemple, Candide. Qui est Simplicius? Pour en parler, je reçois Oriane Jeancourt-Galignani, romancière, directrice adjointe de la rédaction du magazine Transfuge, dont le dernier numéro est en vente en kiosque, en librairie et sur Internet. Oriane Jeancourt-Galignani, avant de commencer par le personnage, pour une fois, je voudrais que vous nous disiez un mot de l'auteur qui n'est pas très connu en France et qui a d'ailleurs longtemps été inconnu en Allemagne, je crois.
Oui, qui a été longtemps inconnu en Allemagne, surtout parce qu'il écrivait sous divers pseudonymes et que pour avancer dans la forêt de ces pseudonymes et pour comprendre quels étaient l'ensemble des livres qu'il a écrits, il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est vrai que Grimmelshausen, qui est aujourd'hui enseigné à l'école, qui est adoré par un grand nombre d'écrivains contemporains et ce depuis le XIXe siècle, était au début un inconnu. Et vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui a fait la guerre de 30 ans, qui en a été extraordinairement marqué, qui a vu ses parents mourir pendant la guerre de 30 ans. C'est quelqu'un qui vient du peuple. Il a été élevé par un grand-père qui était aubergiste lui-même et devenu d'ailleurs aubergiste lors d'une de ses nombreuses carrières. Et c'est vraiment un autodidacte. C'est d'ailleurs peut-être ça que raconte les aventures de Simplicius, l'histoire de l'élévation d'un autodidacte. Et Grimmelshausen, c'est tout à fait ça.
Alors, ce Simplicius, que d'ailleurs, dans les versions françaises, on appelle, je ne sais bien pourquoi, Simplex, et donc le héros de ce personnage, à quoi ressemble-t-il physiquement?
on comprend au fur et à mesure qu'il est très beau. Mais ce n'est pas évident dès le début, parce qu'au début, c'est un sauvage. Il naît d'une famille paysanne. Alors, on a vraiment l'impression que c'est des paysans, non pas du XVIIe siècle, mais des hommes de Cro-Magnon. Âge, mais... parce que il ne sait pas à quoi il ressemble. Il parle à peine son knan, comme il appelle son père, qui est un mot de vieil allemand. Ne lui apprend pas grand-chose, à part à garder des moutons. Donc, on a vraiment l'impression que c'est un sauvage. Ensuite, il va faire son adolescence chez un ermite. Et lui, là, il sera vraiment en haillon, maigre, en mourant de faim. Et puis, ce n'est que quand il arrive dans le monde qu'on découvre qu'il plaît beaucoup aux femmes et aux hommes, puisqu'il y a une liberté sexuelle dans ce roman qui est assez frappante. Et donc il va continuer à être comme ça, très beau, toute sa vie.
Alors, il est recueilli par cet ermite dans les forêts, et je crois que, j'aimerais bien que vous nous lisiez le passage très très beau d'ailleurs de présentation de Simplicius à l'ermite. En
Absolument.
Allemand, s'il vous plaît. Et vous nous direz après ce que ça
Absolument.
Veut dire.
Alors, il faut se souvenir que Simplicius a alors 10-11 ans peut-être. Ein Siedel, c'est un dialogue. Ein Siedel, c'est le nom de l'ermite. Ein Siedel, wie heißest du? Simplicius, ich heiße Bub. Eins. Ich sehe wohl, dass du kein Mädchen bist. Wie hat dir aber dein Vater und Mutter gerufen? Ich habe keinen Vater oder Mutter gehabt. Wer hat dir denn das Hemd gegeben? Ei, mein Mäuder. Wie heißt dich deine Mäuder? Sie hat mich Buß geheißen, auch Schlemm, ungeschickter Tölpel und Galgenvogel. Wer ist denn dein Muttermann gewesen? Niemand? Bei wem hat denn dein Mäuder des Nachts geschlafen? Bei meinem Knan. Wie hat ich den Knan geheißen? Er hat mich auch Bub genannt. Wie hieß aber dein Knan? Er heißt Knan. Wie hat ihm aber dein Meuter gerufen? Knan und auch Meister. Hat sie ihn niemals anders genannt? Ja, sie hat. Wie denn? Rülp, großer Bengel, volle Sau und noch voll anders, wenn sie hadderte.
Et tout ça veut dire...
Alors, tout ça veut dire, je vais vous faire une traduction rapide. Mais non, l'ermite lui dit, mais comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle garçon.
Oui, c'est ça.
Et alors, il lui dit, mais je vois bien que t'es pas une petite fille. Mais comment t'appelles-tu réellement? Il dit, je sais pas, moi, mes parents m'ont appelé garçon. Et donc, tout le dialogue va se avancer comme ça. Alors aussi, avec cette verve burlesque et satirique qui est celle qui fera connaître, qui fera le succès de Grimmelshausen dans les siècles qui suivront. Mais il lui dit, mais comment est-ce qu'elle t'appelait ta mère quand elle ne t'appelait pas garçon? Eh bien, elle m'appelait bon à rien, elle m'appelait fils d'oie, elle m'appelait... Et donc là, il y a une série de noms, de petits noms affectueux, au moins, qu'on peut donner aux enfants. Et c'est pareil, donc quand il lui dit, et comment est-ce qu'elle appelait ton père? Il dit, pareil, bon à rien, mon maître, mais quand il était sous, elle l'appelait autrement.
Je me suis demandé si Grimmelshausen n'avait pas voulu faire une référence à Homère, quand il, avec le fameux épisode d'Ulysse, comment t'appelles-tu, mon nom est personne. Et car c'est un roman cultivé, on va en parler, il y a beaucoup de lectures dans ce roman et je me demande s'il n'y a pas eu de ça. Quel type d'allemand est-ce, Oriane, cet allemand que vous venez de lire et qui date donc de 1660 à peu près?
Oui, et c'est ça, je pense, le premier grand intérêt du livre, c'est sa langue, parce que c'est une langue très mélangée. Là, j'ai pris un passage qui est très moderne, mais qui en même temps fait entendre une langue populaire, ce qui était un peu la petite révolution. Qu'a fait Grimmelshausen, il a fait entendre, lui qui avait connu des paysans et qui pourtant était d'une famille de nobles, eh bien, pouvait faire entendre une langue paysanne, pouvait faire entendre une langue vulgaire, avec d'autre part une langue classique extrêmement travaillée, très poétique. Il y a d'ailleurs à un moment des chansons qui sont écrites en quatrain, extrêmement poétique et très marquée, et ça c'est le cas d'une... peut-être toute la littérature du XVIIe siècle, mais très marquée par le retour de la littérature antique, vous l'avez dit, Homère, et dans les images, mais aussi dans le rythme, mais aussi dans la construction romanesque.
Ça veut dire qu'auparavant, dans la littérature de romans, en tout cas allemande, il n'y avait pas d'usage du parler vulgaire? Ou très peu?
Écoutez, il y en avait dans les mythes, il y en avait dans les histoires. C'est-à-dire que la culture allemande a toujours été une culture où on se transmettait des histoires. Et d'ailleurs, il y a des histoires médiévales qui apparaissent dans le livre. Notamment ces histoires de rivières, ces histoires d'ondins, ces histoires d'ondines, ces histoires de demi-monstres, c'est-à-dire que la culture allemande populaire était baroque avant de l'être, en quelque sorte. Donc, il y avait ces images populaires, mais il n'y avait pas dans un roman aussi construit et aussi travaillé que celui de Grimmelshausen des passages de langue populaire, non.
Alors, on l'a dit, Oriane Jeancot, ce livre est en grande partie un roman sur ou avec la guerre de 30 ans, qui a été un énorme traumatisme pour toute l'Europe à ce moment-là. Rappelez-nous un peu ce que c'était cette guerre de 30 ans.
Alors la guerre de 30 ans, on dit souvent que c'était la suite de la guerre des religions et que finalement voilà, c'était la suite. C'est vrai et ça n'est pas vrai puisque on voit l'empire des Habsbourg qui a le Saint-Empire qui a à ce moment-là un pouvoir énorme et dont la tête est en Espagne qui avance en Allemagne et qui a une grande présence en Allemagne. Et face à ça, il y a les nobles protestants qui, en effet, ont été convertis, on est au XVIIe siècle, donc depuis près d'un siècle, et qui, eux, prennent le pouvoir et décident de se rebeller contre l'Empire. L'Empire étant catholique. Donc, il y a à ce moment-là, dans les différents Länder, mais ça va assez loin, puisque ça va jusqu'en Bohême. D'ailleurs, l'épisode qui commence, qui ouvre la guerre de 30 ans, qu'on appelle la défenestration de Prague, et qui voit s'opposer, justement, la noblesse protestante au pouvoir de l'Empire, eh bien, a lieu à Prague. Donc, c'est pour vous dire, c'est une guerre allemande et c'est une guerre européenne et qui voit vraiment non seulement les protestants et les catholiques, mais aussi l'aristocratie et l'Empire combattre. Et ça va être une guerre épouvantable, c'est vrai pour l'Allemagne, puisque à la fin de la guerre de 30 ans, il ne reste que la moitié de la population allemande.
Ce qui est intéressant dans le roman, c'est que Grimmelshausen, je le disais dans la présentation, s'est converti. Il était luthérien, il est devenu catholique. Et il fait faire la même chose à son personnage, à Simplicius, qui a beaucoup de considérations sur la religion. Et il me semble que, en général, les convertis sont assez fanatiques. Et là, pas du tout. J'ai pas l'impression qu'il y ait de discours ou pour les uns ou pour les autres. C'est un vrai roman, en quelque sorte.
Oui, c'est un vrai roman, même si il est évident que la dimension religieuse est permanente, puisque dès le deuxième chapitre, il dit « Je vais vous raconter cette histoire ». Pour vous montrer comment est-ce qu'un homme a chu et puis ensuite il est remonté, comment est-ce qu'il a trouvé la foi, comment est-ce qu'il a atteint la vérité. On a l'impression de lire du Fénelon, les aventures de Télémaque, enfin il y a aussi de ça. Hein. Il est là pour éduquer, il est là pour mener à la lumière. Et d'ailleurs le dernier chapitre, il cite entièrement celui qui était donc en effet le précepteur religieux de Charles Quint.
Mais en même temps, Simplicius ne fait pas du prosélytisme catholique,
non. C'est non. Ça que... En effet, il ne fait pas du prosélytisme catholique et parfois on a même l'impression qu'il en joue. Mais quand même, cette idée d'ermite, d'ermitage, le personnage de l'ermite est en effet un très beau personnage au début du livre. Et puis, je crois qu'on peut le dire parce que c'est pas tout à fait un roman à suspense, Simplicius va finir par choisir lui aussi de devenir un ermite. Donc il y a toujours cette idée qu'à un moment, il faut se retirer du monde.
Au début, je l'ai dit, c'est un pur ou un naïf en tout cas. On le voit la première fois qu'il s'engage dans les armées, il voit un soldat donner une gifle à une autre, il se dit, ah bah suivant l'évangile, l'autre va tendre l'autre joue, puis non, l'autre se bat. Et Simplicius est très très étonné. Ça ne va pas durer longtemps, mais il y a cet élément de naïveté perdue.
Oui, oui, et ça va être vraiment un leitmotiv dans le livre, c'est-à-dire que sans cesse il va répéter qu'en effet à un moment il était pur et qu'il a perdu ce paradis qu'il avait avec ses parents. Le Knan et Mulder reviennent tout le temps, c'est quasiment des figures obsédantes pour lui, et donc il a perdu ça, il a perdu cette première innocence. On a parfois l'impression d'être chez Rousseau avant la lettre, et que voilà, et qu'à partir du moment où il a épousé la société, et c'est vrai qu'il va être à la cour. C'est ça qui est d'ailleurs, c'est ça qui en fait un roman baroque, c'est que il va être riche, il va être pauvre, il va être fou, il va avoir 1000 vies et il va incarner 1000 personnages en un. Et donc dans ces diverses existences, il y aura quand même toujours l'idée que son identité première, cette candeur première, a été trahie. Et il, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une construction circulaire. À la fin, l'ermitage, ça va être le choix de retourner à l'enfance et de retourner à cet état premier intouché.
Et il n'a plus de fin que parce qu'il a perdu son innocence, puisque après avoir été naïf, il devient roublard et on le voit lui-même voler des gens en disant, en prenant soin de dire que c'est pour châtier les méchants. Néanmoins, j'ai pas l'impression que ça soit un pré-Robin des Bois. C'est plutôt la fin des vieilles histoires du Moyen-Âge, des romans de renard où la ruse était admise contre le pouvoir.
C'est intéressant ce rapport au pouvoir, c'est très très intéressant parce que en effet, il y a un côté vous avez raison de la figure du roublard, du malin qui est très propre au Moyen-Âge et en même temps, il y a un discours politique très construit notamment au début du livre où il va défendre les paysans et c'est vrai qu'on a l'impression là pour le coup que c'est un discours pacifiste, on a presque l'impression d'être au début du XXe siècle, c'est-à-dire que il dit ça suffit maintenant ces civils paysans qui que ce soit le côté catholique ou le côté protestant sont toujours les premières victimes de la guerre et se font laminer en permanence. Et d'autre part, il va vraiment dire, mais finalement, qu'est-ce qui autorise les nobles à envoyer ces paysans en chair à canon, rien ne l'autorise, toute vie. Et là, il me fait presque penser au Figaro de Beaumarchais. Toute vie doit être vécue, toute vie mérite une voix et je serai la voix des muets de l'histoire. Il est extrêmement moderne pour ça et il annonce une littérature des Lumières. Et c'est bien pour ça qu'on est en 1669.
Il y a une chose qui est subreptice mais très intéressante dans ce roman, je trouve, c'est que c'est aussi un livre sur les manières de vivre. Et il y a un long passage sur ce que mange Simplicius, en tout cas au début, alors des galettes de blé concassées, de temps en temps on capture un sanglier, jour de fête, veau, gingembre, on se reconnaît dans la cuisine moderne, et la chose capitale qui est le sel et qui est distribué par le pasteur qui en a un pouvoir considérable. Et on sent bien que Grimmelshausen sait qu'il écrit un passage important parce qu'il le fait long et je trouve ça très instructif.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On apprend véritablement comment est-ce qu'on se nourrissait, quel était le principe du plaisir. Le plaisir était souvent quand même avec de la viande et c'est vrai qu'il peut faire des pages et des pages. Il a rien à envier à Rabelais de plats, de nourriture. Alors encore une fois, même s'il était de la noblesse, son grand-père était aubergiste. C'est un aubergiste. C'est quelqu'un qui nous parle de sa cuisine et voilà, qui vit dans la cuisine.
Nous allons entendre un extrait de la musique du film Le Tambour de Volker Schlöndorff. C'est un film de 1979 tiré du roman de même titre de Günter Grass qui est aussi le roman d'un naïf allemand pendant la guerre, une autre guerre et une autre Allemagne, l'Allemagne du Nord et la Deuxième Guerre mondiale. Oriane Jeancourt-Galignani, je dirais qu'il y a quelque chose de très universel et quelque chose de très germanique dans le personnage de Simplicius. Le très universel, à mon avis, c'est, en tout cas pour son époque, le rapport au corps. Et on le voit prendre un bain et il raconte ça comme si c'était un raffinement de pervers. Et c'est une chose d'ailleurs que tous les pauvres d'Europe ont connu, au fond, jusqu'aux années 1950, où les salles de bain ont été intégrées dans les appartements.
Ah oui, c'est vrai que la scène du bain, je suis d'accord avec vous. Bon, il faut dire que si on pense à la même scène de bain, c'est celle qui sort d'années d'ermitage. Donc c'est le premier bain qu'il prend après 7 ou 8 ans, il n'en a pas pris. Je pense qu'on aurait tous ces délices pervers. Mais c'est vrai qu'ensuite, quand il raconte, il met un manteau en zibeline sur son corps nu et il a un sens de la jouissance qu'il y aura aussi quand il mange, qu'il y aura aussi quand il se essayera au libertinage, notamment à Paris. Il faut croire que Paris est déjà la ville où on s'adonne à ce genre de choses. Vous avez raison, la vie du corps, qui est peut-être, c'est un autre débat, mais l'une des grandes questions du roman moderne, du roman contemporain, est déjà extrêmement présente chez Grimmelshausen.
Alors, vous venez de l'évoquer, Oriane, à propos de perversité. Il y a le passage parisien du livre, car Simplicius se retrouve à un certain moment à Paris. Et pour lui, et peut-être pour son auteur, pour Grimmelshausen, on voit que c'est la capitale à la fois du snobisme et du stupre. Car le monsieur canard qui l'accueille ne se choisit pour ami que des gens qui ont leurs entrées à la cour. Et on voit bien que là, il y a une critique très, très conduite de l'auteur sur le snobisme des Français. Et d'autre part, il y a une scène très très félinienne où il lui donne à manger un plat contenant on ne sait trop quoi, d'où s'ensuit une grande scène de sexe comique au fond.
Oui, oui, on peut se demander si l'empoisonnement n'est pas un prétexte pour, en effet, cette grande scène comique où il y a une femme vieille, des femmes jeunes, et finalement on ne sait pas très bien qui y passe.
Plutôt la jeune, à la fin, quand même, je crois.
Oui, il y a un doute, mais bon, c'est pas évident. Mais oui, 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 c'est drôle parce que on ne sait pas si Grimmelshausen est allé à Paris. Après, il est allé à Strasbourg, voilà, il est mort pas très loin de Strasbourg, mais a priori, il n'est jamais allé à Paris comme il n'est jamais allé à Moscou. Et à la fin du livre, se passe à Moscou.
C'est d'autant plus intéressant. Moi, je pense aussi qu'il a créé ce Paris d'imagination et pas. Et donc, ça montre une forme de préjugé qu'on pouvait avoir dans une certaine Allemagne à un moment donné sur Paris.
Oui, 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 certainement, certainement.
Alors, je disais qu'il avait une chose universelle, c'est nous venons d'en parler. Et la chose très germanique, vous l'avez évoquée dans la première partie de l'émission, c'est cette idéalisation de la nature. Il éprouve en permanence cette nostalgie de la forêt initiale qui est un synonyme de paix et de pureté. Il me paraît très très évident que c'est une chose germanique.
Ah bah oui, la forêt, ça c'est la grande aventure allemande. Bon, même si ça n'est pas que l'Allemagne, hein, bien sûr, mais c'est vrai que, d'ailleurs on le voit chez Dante notamment, que la forêt a pu être un mythe universel. Mais c'est vrai que la forêt, ce qui est intéressant dans les textes allemands, c'est qu'elle est à la fois le lieu du paradis perdu, c'est sûr que le Locus Amenus est une forêt en Allemagne, et en même temps est un lieu de grand danger, et c'est d'ailleurs ce qui va être le cas dans ce roman. Et c'est aussi un lieu, et il y a un passage qui est très intéressant, où Simplicius traverse la forêt et il rencontre un monstre. Et ce monstre est un monstre avec des ailes, avec des pattes de poisson, avec des cornes. Enfin, c'est un monstre qui représente à peu près 7 ou 8 animaux à lui seul. Et Sebald, qui était un grand lecteur de Grimmelshausen, disait qu'il y avait là, pour lui, c'était la scène fondamentale de la littérature baroque. Parce qu'il y avait dans ce personnage de monstre qui se disait lui-même monstre, qui disait « je vais t'apprendre à te métamorphoser, je vais t'apprendre », c'est ça qu'elle dit à Simplicius. C'est une scène très étrange, hein, onirique. Et donc, que dans cette scène, au milieu de cette forêt, ce monstre qui était en perpétuelle métamorphose et qui proposait au personnage de lui apprendre à se métamorphoser, eh bien c'était par essence le baroque qui célébrait son goût de l'allégorie. Et je trouve que c'est intéressant, ça en dit long sur les pouvoirs de la forêt dans la littérature allemande.
Et ça en dit long aussi sur les idées courtes parfois des universitaires qui se contentent de dire que le Simplicissimus est un roman picaresque. C'est beaucoup plus que ça. Vous venez de le dire, cette évocation du monstre peut aussi, pour moi, se relier aux métamorphoses d'Ovide. Et c'est pas du tout un roman picaresque. Enfin, baroque est probablement le bon mot, mais ça prend ses racines aussi dans la littérature la plus antique, et je l'évoquais au début, Simplicius est très très content de parler de ses lectures et il cite beaucoup de littérature antique, Aristote, Cicéron. Donc on voit que ça a déjà pénétré chez un personnage populaire et pas du tout des classes élevées de l'Allemagne du XVIIe siècle.
Alors, il est, oui, c'est quand même un autodidacte, donc c'est quelqu'un qui a extraordinairement lu. Et vous l'avez dit, il cite Aristote dans le texte, il cite énormément les Grecs et les Latins, il cite les Latins dans le texte, mais, et c'est quand même quelqu'un qui a fait des études, qui est allé à l'université, il vient d'une famille noble, et il y a un petit peu d'argent, mais vous avez raison, ce serait aujourd'hui la classe moyenne, puisque, voilà, il est aubergiste, le père. Le grand-père, puisque le père est mort. Le fait est que le peu qu'on sache, et c'est un peu une obsession en Allemagne, il y a pas mal de biographies qui sont écrites et réécrites, surtout en ce moment, le peu qu'on sache, c'est quand même que ses voisins, là où il est mort, donc à Reichenau, je crois, donc près de Strasbourg, eh bien ses voisins disaient que c'était un homme extrêmement savant. Extrêmement drôle et extrêmement savant. Mais, en effet, quelqu'un qui s'est fait tout seul.
Est-ce que, dans la façon dont il fait parler Simplicius, avec, à mon avis, un certain pédantisme, est-ce qu'il y a, d'après vous, une intention de se moquer un peu de ce personnage sorti des forêts qui se croirait un grand savant, ou c'est au contraire Grimmelshausen, naïvement, qui expose sa propre science? C'est très difficile à savoir. Hein.
C'est très difficile. La question de l'ironie est permanente, je trouve, dans ce livre, parce que quelquefois, même quelquefois, à des moments religieux, je me dis dit c'est pas possible d'être aussi comme ça donneur de leçons. Il doit être en train de faire de la satire, surtout que c'est un très grand satiriste.
Oui.
Donc je n'ai pas vraiment la réponse. Ce qui est sûr, c'est que cette approche scientifique permanente des choses, parfois il donne de très grands cours sur les maladies, il a notamment une passion pour la médecine, était très présent dans les romans du XVIIe siècle et pas seulement chez Grimmelshausen. J'ai cité Fénelon, mais il y en a d'autres. Donc cette prétention scientifique de la littérature au XVIIe siècle n'est pas unique.
Alors, on ne peut pas faire dire à un roman 250 ans avant ce qu'il contient de prophétique, mais il y a un passage dans ce livre où Simplicius rencontre un fou nommé Jupiter, et ce Jupiter lui prédit comment l'Allemagne sortira des désastres qu'elle vient de connaître pendant la guerre de 30 ans. Et la chose très étrange, c'est qu'il prophétise un héros allemand qui réunira toutes les églises, il dit même le Turc se convertira, et organisera une paix universelle sous domination allemande. Alors, je ne veux pas du tout présupposer que le désir de domination allemande que nous avons connu bien plus tard n'est là, mais il y a quand même cette espèce de rêverie d'unification dominatrice de l'Allemagne.
Oui, et que va apporter au début la paix de Westphalie, qu'il appelle d'ailleurs la paix allemande dans le livre, et que toute l'Europe va appeler la paix allemande. Et la paix de Westphalie va pendant un certain temps donner le sentiment que les différents Länders, que ces nobles, cet empire, que tout le monde va pouvoir vivre ensemble, et puis on sait que ça va être bien plus compliqué que ça. Donc il y a toujours cette tentation de l'unification d'une grande Allemagne, oui, bien sûr.
Alors, Oriane Giancourt-Galignani, le Simplicius Simplicissimus a eu une influence considérable, je ne sais pas tout de suite, mais en tout cas, pas si longtemps après, il y a eu Candide, puisqu'au fond, Candide qui se retire pour cultiver son jardin, c'est bien Simplicius qui se garde du monde. Est-ce qu'il y a eu d'autres, en tout cas en Allemagne, d'autres romanciers ou d'autres écrivains qui ont été profondément marqués par ce roman? Est-ce que ça s'est produit tout de suite? Est-ce que tout de suite le roman a eu un écho considérable, ou est-ce que ça a été plus lent?
Le roman a eu quand même assez vite un bel écho. D'ailleurs, il n'a jamais cessé d'être publié. Ce qui est quand même assez rare, puisque souvent il y a des époques de découverte où on redécouvre les livres, surtout pour quelqu'un qui publiait sous pseudonyme, c'était pas simple de le publier, et il n'a jamais cessé d'être publié. Et c'est vrai que tous les grands écrivains à un moment se sont confrontés au Simplicius Simplicissimus, que ce soit Lessing, que ce soit Goethe, parce que le Wilhelm Meister est très marqué par cette idée du roman d'apprentissage. On peut quand même dire que Simplicius est un roman d'apprentissage, même si c'est aussi un roman de guerre.
Ou de désapprentissage.
Et même si c'est 1000 romans en un, on pourrait dire ça, mais c'est aussi un roman d'apprentissage.
Lessing, pardon de vous couper, dans quoi?
Alors Lessing a participé à la republication de Simplicius et a fait une longue introduction pour le présenter. Donc c'était quelque chose qui l'intéressait beaucoup, mais voilà, comme ensuite Brentano l'a intéressé. On peut se dire que les frères Grimm aussi ont certainement lu Grimmelshausen, parce qu'ils ont beaucoup en commun. Mais pour revenir à Goethe, il y a aussi ce Faust. Parce que vous avez remarqué que Faust apparaît dans le Simplicius. Il est nommé... Alors bien sûr qu'il y avait la pièce de Marlowe qui avait pas mal tourné en Europe. Mais il y a quand même cette idée du magicien, cette idée du Faust. Il y a les sorcières et on pense à la nuit de Walpurgis du Faust. Il y a beaucoup de choses, je trouve, du Faust qui renvoie à Simplicius et à Grimmelshausen.
Oriane Giancourt-Galignani, que vous a appris le personnage de Simplicius Simplicissimus?
Il m'a appris ce que m'apprennent toujours les grands personnages de littérature, c'est-à-dire que un grand personnage est un personnage indéfinissable, est un personnage qui est en perpétuelle métamorphose. Et c'est le cas de Simplicius, qui peut être fou, joueur de luth, guerrier, mari, veuf, trompé, trompeur, ermite, prêtre. Enfin, on ne sait plus très bien qui il est à la fin. Et je serais bien incapable, nous avons pourtant essayé, de dire qui est cet homme en une phrase. Et je crois que les grands personnages en littérature sont de cela.
C'était Personnage en personne, le 47e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Sally Bowles, créé par Christopher Isherwood dans Adieu à Berlin en 1939.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis,
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de recherche et de documentation Daphné Abgral, prise de son Jean-Michel Bernot. Dans un instant, Joël Gaillot.
À qui c'était un grand jeudi, tous les jours paradis.